RCF, Fabrice Gironnet.
17h et vous êtes sur RCF à Reims-Ardennes. Tout de suite, la rediffusion du magazine du week-end et nous retrouvons Jean-Pierre Benoît.
Bonjour, le magazine du week-end, c'est le samedi de 11h à midi ou de 17h à 18h. C'est les deux si vous voulez, ou c'est le matin et l'après-midi. L'occasion pour nous de retrouver aujourd'hui Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Il était avec nous en direct hier sur RCF. On va le réentendre comme on le fait traditionnellement le samedi en alternance avec Monseigneur Étienne Véteux. On reparlera bien sûr de médecine avec le docteur Hervé Ruinard. On reparlera également finances, budget avec le président du conseil départemental de la Marne, Jean-Marc Rose. Il était en direct pour une émission spéciale, c'était jeudi matin. Et puis nous écouterons Pierre-Yves Gallois qui est l'un des responsables du conseil diocésain de pastoral qui s'est réuni samedi dernier dans le cadre des acteurs pastoraux et on le réentendra lundi matin. Et puis, je ne l'ai pas annoncé dans le sommaire, mais c'est une information un petit peu locale avec les maires qu'on retrouve, les élus, et c'est le cas de François Garcia, le maire de Gendin, qui sera tout à l'heure avec nous. Mais je les ai en titre dans l'émission du matin. En direct, au cours d'une émission spéciale, nous recevions jeudi Jean-Marc Rose, président du conseil départemental de la Marne. Jean-Marc Rose était avec nous. Jean-Marc Rose, vous allez lancer des états généraux autour de l'enfance, après avoir lancé des états généraux où vous lancez un schéma gérontologique. Vous avez passé du temps pour les personnes les plus en difficulté âgées. Maintenant, vous allez vous occuper des plus jeunes. Vous allez aller faire le tour de tous les foyers de l'enfance, de toutes les maisons. Vous allez sur le terrain.
Oui, alors on a effectivement présenté un nouveau schéma gérontologique lors de la foire de Châlons, qui a plusieurs points et qui consiste à améliorer la vie de nos personnes âgées. Et nous sommes en train, par ce qu'on appelle les états généraux de l'enfance, de faire la même chose pour l'enfance. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus d'enfants que nous confiait la justice, et donc c'est un vrai sujet. Alors, nous avons un certain nombre de foyers de l'enfance et une quinzaine de maisons de l'enfance à caractère social dans la Marne. Pour l'instant, j'en ai visité pratiquement une dizaine. Donc, dans ces visites que je fais, par exemple avec ma vice-présidente Martine Boutilla ou avec d'autres élus, je fais la visite du foyer, mais je discute avec les encadrants, avec toutes les personnes qui sont d'ailleurs, je vous le dis, hein, on ne le sait pas assez, mais qui sont des personnes extrêmement... volontaires avec
passionnés
qui sont là depuis des années et pas toujours bien payés, je vous le dis, hein, je le dis parce que c'est la fonction qui est malheureusement
comme ça, oui.
Oui, enfin c'est pas très logique, hein, je le dis parce que alors le problème c'est qu'on n'a pas les moyens vraiment de faire beaucoup mieux. On essaiera quand même, mais ces échanges me permettent de voir la situation, d'entendre ce qu'il faut entendre par les encadrants qui sont les mieux renseignés, puisque c'est eux qui s'occupent de nos enfants toute la journée. J'ai par exemple constaté que on n'encadrait pas un enfant comme on l'encadrait il y a 25 ans ou 30 ans. Pourquoi ? Aujourd'hui, ils font des réunions dans des salles à 15-20 enfants. On peut pas bien s'occuper d'un enfant malheureux si on est au-delà de 5 ou 6. Donc il faut prévoir, c'est pour ça qu'on fera peut-être des investissements dans ce sens-là, des salles de 5-6. Donc peut-être aussi plus d'encadrants, parce que justement, pour bien s'en occuper, pour être en proximité avec eux. Voilà, ce sont des exemples, mais tout ça fera l'objet d'un colloque où on rendra tout ce qu'on a vu et où on fera participer tous les spécialistes de l'aide sociale à l'enfance.
Ça sera pour la fin de l'année, mais voilà. Vous allez vous projeter peut-être l'an prochain vers le mois de mars pour un nouveau schéma de l'enfance.
C'est ça, le but, tout à fait, Monsieur Benoît. Le but, c'est de proposer un nouveau schéma de protection de l'enfance au début du trimestre ou vers la fin du premier trimestre 2025.
Je fais une petite parenthèse, Jean-Marc Rose, parce que vous dites, je suis allé sur le terrain, les maisons de l'enfance, mais pas que. Vous faites des réunions cantonales régulièrement. Vous allez sur le terrain du côté de Châlons, du côté de Vitry, le François, du côté de Cézanne. Et là, pour vous, vous recueillez beouscoup de témoignages. Là, vous prenez le pouls des Marnais.
Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, nous sommes 23 cantons. Il y a donc 46 conseillers départementaux. J'en ai fait là actuellement, ça va faire bientôt un an puisque j'ai été élu le 6 novembre. Donc le 6 novembre prochain, ça fera un an.
C'est presque un anniversaire oui, en ce moment.
Premier anniversaire de présidence de la Marne. L'intérêt, c'est donc j'en ai fait une dizaine, une douzaine. Je vais donc on va dire un petit peu plus de la moitié. L'intérêt de ces rencontres, d'abord, c'est de voir les élus qui sont sur le canton. C'est de voir aussi différentes choses. On peut voir un foyer, un EHPAD, une entreprise. Par exemple, je me souviens du côté de Montmirail.
Vous rencontrez des chefs d'entreprise.
Bien sûr, rencontrer des chefs d'entreprise. J'avais vu une entreprise qui avait un gros carnet de commandes et qui trouvait pas forcément d'emploi facilement. Et donc, c'est l'affaire Champenoise précisément. Et j'ai mis en relation. Alors, je sais pas si ça va fonctionner, mais je l'espère. J'ai mis en relation, par exemple, mon vice-président en charge du RSA pour insérer des personnes avec une formation dans cette entreprise. Voilà des exemples. Mais l'intérêt de rencontrer les élus, c'est comme vous l'avez dit, Jean-Pierre, c'est de prendre le pouls. Parce que là, on a un échange. Et souvent, d'ailleurs, il y a l'échange officiel en salle publique, où il y a la presse, en général. Et puis, il y a l'échange quand on boit le pot de l'amitié, qui sont des échanges parfois plus intime et tout à fait intéressant.
Et justement, vous l'avez mentionné tout à l'heure, on est passé rapidement dessus, le fait que depuis le 6 novembre, vous avez placé votre mandat sous, j'allais dire, l'égide de tout faire pour les personnes handicapées. Le handicap est pour vous une priorité. Vous l'avez rappelé au détour, beaucoup d'auditrices et d'auditeurs le savent, vous faites toujours souvent référence à vos parents qui étaient malentendants et vous avez vécu de près cette réalité. Et ça, le président du conseil départemental d'aujourd'hui n'oublie pas le Jean-Marc Rose d'il y a quelques années qui a vécu cette réalité. Et donc quand il vous le handicap, c'est quelque chose que vous avez vécu et rencontré.
Ah ben, à tel point que vous l'avez souligné, j'étais malentendant, ma première langue c'est la langue des signes. Donc avant de parler comme vous et moi, j'ai parlé la langue des signes. Oui, j'en ai fait une priorité et j'ai surtout fait en sorte, alors bien sûr ça va nous coûter plus cher, mais peu importe de ce point de vue-là, car je pense que toute personne doit avoir les mêmes droits. Et donc le but c'est que on fasse en sorte qu'un handicapé qui soit dans le fond de la Marne et qui n'a pas toujours toutes les informations puisse connaître ses droits. Et d'ailleurs, dans ce but-là, nous avons organisé un bus qui s'appelle France Service avec la préfecture. C'est un bus qui sillonne au travers de la Marne sur 28 communes les plus éloignées. Et ça permet aux personnes de venir se renseigner sur tout ce que la Marne peut proposer, et notamment justement sur le handicap.
À travers ce que vous nous dites, Jean-Marc Rose, on comprend bien que le conseil départemental, c'est pas une structure de plus intercalée entre d'autres, mais si elle n'existait pas, vous avez parlé de ce lien que ne peut pas faire forcément le maire de la commune, tout, même que peuvent faire aussi les communautés de communes. Vous faites autre chose, et vous faites autre chose aussi que peut faire un parlementaire. Et vous allez continuer. Donc, ces visites dans les cantons, ça y est, vous en avez encore 12 ou 13 à faire très rapidement. Vous êtes tellement impliqué dans le social, et comme nous sommes dans une situation économique difficile, vous êtes pris quand même à la gorge, mais la Cour des comptes est quand même montée récemment au créneau en désignant quand même les collectivités locales comme les principaux coupables. Et ça, je pense pas que vous soyez bien d'accord, Jean-Marc Rose.
Non, pas du tout. Qui, entre nous, Monsieur Benoît, nous habituait quand même à plus de pertinence? La Cour des comptes a parlé des collectivités locales en disant il faudrait, elle pourrait économiser 100 000 postes.
100 000 postes,
c'est 100 000 postes, 100 000 postes. Alors que, il faut savoir qu'il y a 2 600 000 fonctionnaires de l'État en France. Bon, les collectivités locales, il faudrait économiser 100 000 postes. Alors, moi, je suis un homme de chiffres, vous savez, Jean-Pierre. Oui. Hein. Donc, 100 000 postes, je sais que les départements représentent un quart des dépenses de fonctionnement des collectivités locales. Sur 100, 25 sont dépensés par les départements. Donc, si je fais une règle tout à fait arithmétique, qui n'est pas absolument exacte, mais qui donne quand même une idée, 100 000 postes par 25%, ça fait 25 000 postes. Il y a 100 départements, vous divisez 25 000 par 100, ça fait 250 postes. Donc, la Cour des comptes nous dit, la Marne, vous devriez économiser 250 postes sur 2100 postes, c'est-à-dire 12 à 13%. D'abord, d'abord, on peut pas économiser un fonctionnaire, puisque un fonctionnaire, on peut l'économiser en non-remplacement à la retraite, premièrement. Et si on pouvait même d'ailleurs les licencier, ce qui n'est pas le cas, ils se retrouveraient au chômage ou ce ne serait pas une vraie économie pour la France. Mais la Marne n'a pas attendu que l'État ou la Cour des comptes nous invite à faire des économies. Puisque, par exemple, prenons un exemple concret pour nos auditeurs, les routes. Les routes départementales, on en a 4200 km. Eh bien, il y a 7-8 ans, on avait 400 personnes qui travaillaient sur nos routes. Cette année, on sera 300 personnes. Pourquoi ? Parce qu'on a des hivers moins rigoureux, que les routes sont bien entretenues. Voilà des exemples de gestion que la Marne a déjà faite.
Après Jean-Marc Rose, je vous propose de retrouver la médecine, car il y a beaucoup de problèmes dans le domaine de la santé. D'abord parce qu'on manque de médecins, on ne trouve pas forcément des généralistes, et lorsque des médecins prennent leur retraite, ils n'ont pas forcément facilement de remplaçants. Et puis ensuite parce que, selon le docteur Hervé Ruinard qu'on va retrouver, il y a une légère remontée du Covid et c'est aussi la période pour les vaccins. Vaccins du Covid pour les personnes les plus en difficulté et puis vaccins contre la grippe puisqu'à partir du lundi, le 21 octobre, on peut se vacciner en particulier dans les pharmacies. On aura l'occasion d'en reparler largement, mais le docteur Ruinard est avec nous. Docteur Hervé Ruinard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai, docteur, qu'en cette période, on entend beaucoup parler des médecins. Beaucoup d'auditrices et d'auditeurs s'interrogent en se disant, est-ce que je vais toujours trouver mon médecin généraliste ou un médecin généraliste qui va pouvoir me soigner dans mon entourage ? Parce qu'il y en a beaucoup qui disparaissent, qui prennent leur retraite, et des jeunes qui ne veulent pas prendre le relais.
Voilà, c'est tout à fait. C'est le problème des 5 années à venir, hein, essentiellement. Au-delà de 5 ans, on aura quand même le bénéfice des nouvelles entrées, libération du numerus clausus, etc. Donc effectivement, on risquera peut-être de retrouver des médecins. Mais est-ce qu'il sera encore temps ? C'est-à-dire, moi, je pense qu'il sera trop tard. Le système sera cassé d'ici là. Quand on voit la chute démographique dans les régions, avec des remplaçants qui veulent absolument pas s'installer, vu l'instabilité de la situation actuelle, avec pas de perspective, pas d'activité au niveau de la médecine générale. Donc effectivement, ça va être très compliqué dans les 5 ans à venir.
Mais alors, il va bien quand même falloir assurer les soins. Beaucoup de gens vont trop facilement aux urgences. Oui. Pour le moindre bobo, il y a des choses quand même à revoir.
Oui, tout à fait. Le premier recours, le niveau médecine générale, c'est quand même un niveau essentiel. Là, récemment, j'ai lu un article sur le comité du cancer qui dit qu'effectivement, sur une étude portant sur 21 départements en France, l'absence de soins primaires, donc de médecins généralistes, a provoqué une surmortalité par cancer dans ces 21 régions. Hein, cancer du foie, cancer du sein, cancer du côlon et cancer de l'ovaire.
C'était pas pris à temps.
Voilà, c'était pris trop tard, les gens ont attendu un petit peu, et puis ils arrivent trop tard, et puis évidemment on leur réduit leur espérance de vie. Maintenant c'est documenté, hein, on n'a plus d'excuses, on le sait.
Mais c'est plus des on-dit, c'est...
Voilà, voilà. Les études sont là, et maintenant il faut retrousser les manches, mais il faudra encore 5 ans pour le faire, donc les mesures préventives indispensables, le dépistage, etc., il faut y penser aussi.
Si vous avez un médecin de médecine générale qui vous soigne en ce moment, gardez-le bien.
Ah, il faut bien le garder, il faut pas l'embêter trop.
Mettez-le au chaud, hein.
Il faut pas l'embêter, il faut pas le déranger trop, parce que ce qui fait peur aux jeunes, c'est, ils nous le disent, hein, les remplaçants, on a peur de la pression autour du travail, c'est-à-dire la pression des papiers, des certificats, des demandes de coups de téléphone, ma biologie, etc. Donc tout ça, il va falloir perdre un petit peu ces habitudes-là pour se concentrer sur notre cœur de métier qui est vraiment indispensable.
Pourtant, les jeunes, ils en veulent. Ils sont passionnés par leur métier.
Ils sont passionnés, mais ils sont passionnés uniquement par l'acte médical, par la maladie. Hein, ils font un petit peu abstraction de ce qu'il y a un petit peu autour. Donc, si on les embête avec d'autres papiers, d'autres choses, etc., c'est ça qui les fait fuir. Et c'est ce qui les fait partir vers des postes de salariat où là, effectivement, les médecins salariés ont des aides, des secrétaires, etc., payés par les communautés locales, hein, les communes, les régions, les Grands Reims, etc. Enfin, c'est pas le cas de Reims, mais l'équivalent de Grands Reims, qui leur paye toutes les infrastructures de secrétaires, etc. Oui. Voilà. Et donc, ils sont complètement déchargés de ces tâches-là. Donc ça, ça leur plaît bien. Et c'est pour ça que ils ont finalement beaucoup de succès, même si effectivement, même au point de vue salaire, ça reste tout à fait honorable, eh bien, ils ont les contraintes au moins. Et du coup, ils préfèrent.
Et puis peut-être que dans les nouvelles générations, on ne peut peut-être pas leur en vouloir, mais les horaires du médecin généraliste que vous avez connu, docteur Hervé Ruinard, vous-même, et que vous connaissez, c'est quand même parfois...
Oui, mais là, il y a quand même une obligation...
Presque inhumain.
Oui, mais il y a quand même une obligation légale. C'est-à-dire qu'on a une permanence de soins en médecine générale qui est de 8h le matin à 20h le soir, théoriquement. Il doit y avoir une réponse du médecin à un problème dans cet horaire-là. Et ensuite, ça bascule sur le 15. Mais très souvent, actuellement, les téléphones partent vers 18h au 15, et le 15 n'est pas très content d'avoir des appels inappropriés parce que ils sont là pour répondre aux urgences. Il faut, voilà, on encombre le 15 avec des demandes qui ne relèvent pas réellement du 15. Et donc ça, c'est les irrites. Donc là, dans les années à venir, ça va changer. C'est clair que ça va changer.
Alors comment faut-il faire dans les années qui viennent en urgence? Ça va être très très compliqué. Ça va être au cas par cas. Ça va être un peu à la débrouille. Alors
oui,
le système
oui, oui, ça risque d'être malheureusement un peu compliqué. Les médecins vont se faire probablement aider par des assistants ou par des infirmiers de pratique avancée. C'est possible à condition que tout ça travaille bien en harmonie et ne soit pas chacun dans son coin. Ça, c'est le fait essentiel des infirmiers de pratique avancée et des assistants. Mais à un moment, on aura tous nos limites. Donc, ça va être quand même compliqué, malheureusement. Faudra pas trop déranger. Alors, certaines choses se reporter sur le pharmacien, les infections urinaires, les maux de gorge, ils vont pouvoir faire des tests, ça va nous aider, je pense. Moi, je suis pas contre du tout ces choses-là. Les sages-femmes vont pouvoir faire des actes de prévention aussi, donc voilà. Mais on a quand même une période quand même un peu sombre, là, qui s'annonce pour les 5 ans à venir. Et puis après, on verra. Mais ça va changer.
Pendant que nous avons le président du syndicat des médecins généralistes sur RCF avec nous aujourd'hui, on va lui poser des questions médicales qui se posent pour les auditrices et les auditeurs. Est-ce que c'est le moment de se faire vacciner ?
Alors oui, là on arrive dans la période... Alors on revoit du Covid, hein, c'est clair.
On revoit du Covid.
Ah oui, on revoit du Covid. Alors ce sont des formes en général peu graves, y compris chez des gens d'un certain âge où on craint toujours et on a des formes relativement, mais qui sont quand même fatigantes. Et voilà, je pense que c'est le moment. Je crois que les vaccins antigrippe arrivent le 20 octobre, je crois, en pharmacie. Les pharmaciens vont nous donner un gros coup de main sur la vaccination, comme ils l'ont toujours donné. Et je sais que beaucoup de médecins sont d'accord avec les pharmaciens pour s'organiser vraiment en commun pour protéger notre population. C'est important. La prévention est importante. Les complications, toujours plus difficiles.
Et pour le Covid, docteur, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Sinon, c'est le Doliprane, le fameux...
Oui, c'est toujours le Doliprane, mais il faut se méfier chez les terrains fragilisés, hein, corticoïdes, traitements antitumoraux, diabète, obésité, etc., comme on l'a toujours dit depuis le départ, parce qu'effectivement, les hôpitaux sont également en souffrance, hein, les services d'urgence aussi, donc il faut pas encombrer avec des complications de Covid. Donc le mieux, c'est de se prévenir. Et actuellement, des réunions de groupe, là, j'ai plusieurs exemples, réunions de famille, repas de famille, machin, claque, tout le monde est passé dans le cluster.
C'est vrai que on y pense moins. Oui. On en entend moins parler aussi.
Oui, voilà. Alors là, on va commencer à en reparler. Dès qu'il va y avoir un peu d'encombrement dans les services d'urgence, bien sûr, tout le monde va s'alerter et tout le monde va se précipiter pour se faire vacciner. Mais bon, ben voilà, il faut démarrer et assez vite.
Mais justement, est-ce qu'il y a encore question, moi j'en ai pas entendu parler, mais de vaccination, parce que c'était fini ça.
Ah oui, oui, la vaccination reprend. COVID. Vaccination Covid reprend. Elle peut être jumelée avec la grippe. Hein, on peut les faire le même jour, au même endroit. Les pharmaciens vont pouvoir nous aider là-dessus. Nous, on n'a pas le... Enfin, il faut que les gens nous apportent le vaccin grippe au cabinet. On voulait avoir des vaccins grippe d'avance, mais nos amis pharmaciens n'ont pas voulu. Donc, ben voilà, ils restent chez les pharmaciens. Et donc, on peut vacciner les deux. Moi, j'encourage tous vos auditeurs à se protéger, même si on, voilà, mais on a toujours une petite réunion de famille, un mariage, un anniversaire, un truc qui vous permet de vous contaminer et de vous trouver fort fatigué, avec quand même potentiellement des complications.
Mais c'est quand même moins grave, on peut le dire, docteur, qu'il y a
oui.
En 2020,
oui, oui, quand on
en
a 2010, démarré.
Oui, quand oui, on
voilà.
a démarré.
Les détresses respiratoires, etc. Voilà, on a quelques hospitalisations sur infection pulmonaire, hein, sur tout ça, la complication possible. Mais bon, voilà, on encombre les services hospitaliers avec des choses qui pourraient être évitées.
Et on ne donnait peut-être pas des corticoïdes comme on en donne maintenant aussi vite.
Alors oui, voilà, enfin il y a tout un schéma thérapeutique maintenant qui a été mis au point. On a des traitements qui commencent à bien fonctionner, donc il faut pas hésiter à demander au médecin de dire voilà, faut pas trop banaliser quand même. Hein, faut pas trop banaliser.
Docteur Hervé Ruinart, c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera très prochainement.
J'espère.
Sur l'antenne de RCF Reims-Ardennes, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui s'intéressent à ces questions de santé, non seulement les maladies et ce qui peut bien sûr les frapper personnellement, mais aussi l'avenir de la médecine, l'avenir du monde médical.
On ne doit pas perdre l'attractivité, elle est quand même là, mais il faut donner du perspective à nos jeunes.
Allumeuse à feu, avec ce qui ne va pas, ce qui rend malheureux, brûlons tout ça, réduisons en cendres les blessures, réduisons ensemble nos fractures, et ce sera, tu verras, un feu de joie, et ce sera, tu verras. Un feu de joie. Pour remplacer les bûches, les reproches crétins, leurs minables embûches crameront bien. Feu d'artifice. Si l'on jette dedans amitié factice, amour décevant, et ce sera, tu verras, un feu de joie, et ce sera, tu verras, un feu de joie, un feu de joie. Comme s'enflamme ce qui nous consommait, soyons pyromanes des entraves qu'on avait. Nos regrets, des étincelles, chagrin follet, crépite au ciel, remords stériles, enfumés, l'inutile dans le brasier. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Et ce sera, tu verras. Un feu de joie.
Voilà, c'était Benabar. Vous êtes à l'écoute du magazine du week-end, c'est tous les samedis, de 11h à midi et de 17h à 18h. Sachez que la semaine prochaine, il y aura un magazine du week-end également, mais que nous serons en plein cœur du week-end de la Toussaint. C'est un week-end un peu particulier puisque la Toussaint a lieu vendredi prochain et donc à partir de jeudi soir, ce sera un grand week-end, une sorte de viaduc jusqu'au lundi suivant. Il faut savoir aussi qu'il y aura le lundi d'après, on regarde un peu l'agenda, le lundi 11 novembre qui sera férié et donc une semaine qui sera encore légèrement amputée. L'occasion pour nous de retrouver dans le cadre de ce magazine Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui était avec nous en direct hier matin depuis Saint-Valfroid dans le département des Ardennes. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous et à toutes.
Merci d'être avec nous. Il faut rappeler que là vous êtes en direct avec nous, mais vous êtes en direct depuis Saint-Valfroid dans le département des Ardennes où se tient, en ce moment, se déroule une retraite des prêtres. De quoi s'agit-il, Monseigneur, exactement ?
Eh bien voilà, chaque année, c'est une habitude dans tous les diocèses, hein, une retraite est proposée aux prêtres du diocèse. Donc cette année, elle est prêchée ici par le père Robert Schultus, qui a été supérieur du séminaire des Carmes, qui est un prêtre de Metz, autour du thème pas de conversion sans conversation. Donc c'est un petit peu une manière de filer l'idée de la synodalité, voilà, pour être vraiment avancé à la suite du Christ, se laisser transformer par le Christ. Et il faut se parler, s'écouter, se laisser aussi porter, entraîner par les autres. Donc cette retraite réunit une vingtaine de prêtres. Et bah, il est bien que Monseigneur Véteux y est passé. Moi j'y suis passé un petit moment pour hier aussi échanger un petit peu avec les prêtres et donner quelques nouvelles et perspectives du diocèse.
Alors Monseigneur, justement, puisqu'on parle de perspectives du diocèse, il y a quelques jours, c'était le 12 octobre dernier, à Rethel, s'est déroulée la journée des acteurs pastoraux avec un conseil diocésain de pastoral. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ce qui s'est passé ?
Oui, donc depuis quelques années, ils ont pris cette habitude. Le samedi qui suit la Saint-Remi, je réunis tous les acteurs pastoraux du diocèse. Alors, pastoraux, c'est les prêtres, les diacres, mais c'est aussi les membres des équipes pastorales, des conseils locaux d'animation, des conseils d'animation missionnaire, des conseils paroissiaux des affaires économiques, etc. Puis les responsables des services, des mouvements. Voilà, donc ça fait à peu près 250 personnes qui se sont réunies. Alors, depuis l'année dernière, depuis un an à peu près, nous avons aussi un conseil diocésain de pastoral. C'est un groupe de 25 personnes, deux par espace missionnaire et puis deux représentants de la vie religieuse, deux représentants des services, deux représentants des mouvements. Ce conseil du sein de pastoral, je vais demander de vous aider à réfléchir sur le thème « Quels acteurs pour la mission dans les 10 années qui sont devant nous ?» Et voilà, et donc j'ai ce conseil du sein de pastoral qui a préparé la journée des acteurs pastoraux. Voilà, donc c'est ensemble que nous essayons ensemble de réfléchir à ce qui peut aider tout le monde.
Et l'après-midi, donc après ce conseil diocésain de pastoral, ce sont les acteurs pastoraux qui ont été en quelque sorte amenés à réfléchir, à s'écouter, à parler ensemble.
Voilà, donc nous sommes les acteurs. Le conseil diocésain de pastoral s'est réuni de 9h du matin jusqu'à 11h30. Et puis après ça, il y a eu la messe. Et là, on a accueilli le déjeuner. Puis après le déjeuner, donc jusqu'à 5h30, on a travaillé avec les acteurs pastoraux. Donc c'est relativement court. Hein. Mais alors, la thématique cette année que nous sommes donnée, c'était l'attention aux dons et aux charismes. Alors, ça paraît peut-être un petit peu ésotérique pour certains, mais l'idée c'est que voilà, à chaque baptisé, Dieu donne une grâce particulière, chaque baptisé a sa manière à lui de refléter en quelque sorte, disons, la bonté de Dieu, la beauté de Dieu, la lumière de Dieu. Voilà, et donc les dons et les charismes, c'est ce que Dieu donne à chacun de nous pour le bien de tous, pour le bien du corps entier. Voilà, certains ont un certain sens de l'écriture sainte, ils s'y sentent à l'aise, certains ont une perception de l'Eucharistie, certains ont le sens des autres ou des pauvres, qui ont une juste attitude tout de suite. Voilà. Et alors, nous avons donc fait samedi un petit exercice qui consiste à regarder autour de nous, à nous demander bien autour de nous ou dans notre vie, qui a compté, quelles personnes m'ont apporté quelque chose de la part de Dieu, quelles personnes ont rendu un peu plus intense près de moi la grâce de Dieu. Et puis après, j'ai eu un deuxième temps sur l'appel, comment est-ce que j'ai été appelé, qu'est-ce qui fait que j'ai répondu à un appel, à participer à tel conseil, à prendre telle responsabilité dans ma paroisse ou dans le diocèse, et comment est-ce que, voilà, pourquoi est-ce que je reste aujourd'hui dans la mission qui m'a été confiée.
On aura d'ailleurs l'occasion, Monseigneur, sur RCF, d'en reparler avec Pierre-Yves Gallois, qui sera lundi matin avec nous. Il était déjà mercredi avec nous. Monseigneur, puisqu'on parle des vocations aussi avec les prêtres, vous êtes avec à Saint-Valfroid avec les prêtres, vous avez forcément des contacts avec des séminaristes, et il y a quelques séminaristes du diocèse qui se trouvent à La Grasse. Vous allez vous y rendre?
Tout à fait, je vais donc la semaine prochaine profiter des vacances de la Toussaint. Je vais à l'abbaye de La Grasse, nous avons trois séminaristes du diocèse qui sont en formation là-bas, donc je vais essayer de les rencontrer d'un peu plus près. Les autres séminaristes sont à Paris, et voilà, c'est un moteur vécu qui suit pour moi les séminaristes, enfin pour nous, pour le diocèse, les séminaristes. Voilà, il faut de temps en temps que les bons que j'aille les rencontrer moi aussi.
Alors, Monseigneur, aujourd'hui démarre en ce vendredi les vacances scolaires de la Toussaint. Ça veut dire que même si on n'est pas encore vraiment à la Toussaint, la fête de la Toussaint se profile, et vous vous y préparez. Il va y avoir quelques rencontres avec des prêtres, puis peut-être avec les prêtres âgés. Avec on a déjà quelques rendez-vous qui sont notés.
Le principal rendez-vous, donc, c'est la messe de la Toussaint le jour de la Toussaint au matin. Pour ma part, ce sera à la cathédrale. Et puis, après, quelques années, je ferai d'aller prier dans les cimetières de Reims pour les prêtres du diocèse. Et donc, ça sera cette année, non pas le samedi 2, parce que j'ai d'autres obligations, mais le jour de la Toussaint, en début d'après-midi. On aura l'occasion de le redire, de l'annoncer. Toutes les personnes qui veulent se joindre à nous sont les bienvenues. Mais c'est aussi l'occasion de la Toussaint. Je vous invite à regarder le fait que nous sommes tous appelés à être des saints et à vivre de la sainteté de Dieu pour l'éternité. Mais c'est aussi, ça précède le jour des défunts, aller à prier pour leurs défunts.
On en reparlera au niveau du programme, au niveau des rendez-vous particuliers. Mais c'est dans quelques jours. Mais nos amis auditrices et auditeurs de RCF sont très attachés à ces fêtes. D'ailleurs, il y a toujours beaucoup de monde dans les offices en général le jour de la Toussaint.
Il y a du monde dans les offices, il y a du monde dans les cimetières. Et voilà, je voudrais redire l'importance de prier pour les défunts, pour ceux qui nous ont précédés. Et puis de marquer ce qui est le jour de prière pour les défunts, le 2 de novembre, et donc les quelques jours qui le précèdent ou qui le suivent. C'est l'occasion de faire mémoire. Nous ne sommes pas sur Terre tout seuls, nous y sommes parce que nous avons été précédés. Certains nous ont en quelque sorte ouvert la voie, et nous sommes liés à eux de bien des manières. Et notre espérance à nous chrétiens, c'est un jour nous retrouver tous dans l'intensité de la présence de Dieu et que Dieu nous donnera les uns aux autres.
Eh bien écoutez, Monseigneur, on vous laisse à Saint-Valfroid. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, Saint-Valfroid c'est sur une colline, c'est à plusieurs centaines de mètres, c'est pour ça que la liaison est peut-être pas très bonne. Mais en tout cas, on vous souhaite une très très bonne, très très bonne journée, et puis à très très bientôt sur RCF. Au revoir. Au revoir, Monseigneur.
Très poussé à toutes.
Après l'archevêque de Reims, je vous propose de rester dans la vie diocésaine, puisqu'il y a un peu plus de 8 jours, c'était le samedi, à Rethel, il y avait la rencontre des acteurs pastoraux. L'occasion pour nous de retrouver Pierre-Yves Gallois, il est membre du conseil diocésain de pastoral, il avait été l'un des organisateurs de la journée. Pierre-Yves Gallois, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre. Et bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que si vous êtes là, c'est parce que nous avons vécu dans le diocèse un moment important. C'était la réunion des acteurs pastoraux qui s'est déroulée à Rethel. Une journée en deux temps, Pierre-Yves.
Tout à fait, voilà, en deux temps. Jusqu'à présent, depuis 2019, je crois, et le lancement de la dynamique en route pour la mission, les acteurs diocésains, les acteurs pastoraux du diocèse se retrouvaient pour une journée entière. Et puis, depuis une petite année, vous savez qu'il y a eu le lancement du conseil diocésain de pastoral, qui s'était réuni une première fois en février. Et du coup, ce samedi à Rethel, voilà, les membres du conseil diocésain de pastoral, qui sont une trentaine, se sont retrouvés le matin. Et puis l'après-midi, voilà, c'était l'assemblée diocésaine des acteurs pastoraux. Et ce qui avait été un petit peu imaginé avec notre évêque, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, c'était que les membres du conseil diocésain puissent animer, en quelque sorte, le rassemblement de l'après-midi.
Alors justement, Pierre-Yves, si on revient un petit peu sur le matin, très rapidement, le conseil diocésain de pastoral a réfléchi, a fait un petit bilan peut-être des 3 ans de son mandat. Est-ce que ça s'est passé comme ça?
Alors c'est le début du mandat, entre guillemets, pour le conseil.
C'est le lancement, plutôt.
C'est le lancement, c'est ça. Et du coup, pour les 3 années qui viennent, le projet, c'est de réfléchir à... quels acteurs pour la mission dans 10 ans, voilà, à un moyen terme, enfin c'est presque un court terme pour notre Église, mais voilà, donc c'est la réflexion qui va nous conduire pour les 3 années, enfin de 2 ans et demi qui viennent, et voilà, alors on s'y était déjà attelé, mais là l'objectif c'était aussi de faire réfléchir les personnes qui allaient venir l'après-midi. Donc l'après-midi, dans l'Assemblée, il y avait 240 personnes à peu près.
Qui ont réfléchi avec vous. Alors une petite question, parce que souvent sur RCF, avec Radio Vatican, Vatican News, on entend parler en ce moment d'un synode sur la synodalité. Alors vous l'avez peut-être évoqué lors de cette rencontre de Rethel.
Eh bien, on l'a tout à fait évoqué, voilà. C'est sûr que réfléchir à la manière dont on peut devenir acteur pour la mission... C'est sûr que ce n'est pas sans lien avec la synodalité et la manière dont on marche ensemble en Église. Voilà les questions de gouvernance, mais plus largement, comment chaque baptisé est appelé à être vraiment acteur à part entière de l'Église. Voilà, donc c'est sûr que c'est tout à fait en lien. C'est aussi pour ça que notre évêque, et puis Thierry Bettler, qui avait... élaborer aussi cette réflexion, ont poussé le conseil diocésain à prendre part à l'animation. Voilà, donc c'est pas seulement réfléchir intellectuellement, mais c'est se mettre en mouvement et faire en sorte que les membres du conseil diocésain prennent part aussi à l'animation. Donc on a entre autres expérimenté le matin une conversation spirituelle autour du thème de l'appel. De quelle manière on a été appelé à la mission qui est la nôtre, comment on s'est engagé, qu'est-ce qui au fond est au fondement de notre engagement. Donc on a expérimenté cette conversation spirituelle le matin pour pouvoir se préparer à l'animer l'après-midi. Mais donc c'était très resserré. Bon, on avait quand même informé les membres du conseil diocésain de pastoral, mais voilà, c'était il fallait plonger, quoi, voilà, dans cet exercice d'animation qui était un peu particulier, puisque la conversation spirituelle c'est très rythmé, il y a des temps de partage où l'idée c'est vraiment de s'écouter, on rentre pas dans une discussion, voilà, l'idée c'est vraiment d'écouter ce que chacun souhaite partager, et puis ensuite un temps de silence, d'intériorisation, un temps de reprise, et puis à nouveau un temps de silence, et puis un temps de conclusion. Donc il y a quelque chose de très rythmé. Voilà, il fallait il fallait que les membres du CDP puissent animer plusieurs petits groupes dans chaque salle.
Et puis peut-être mesurer la grâce qui est faite à chacun. J'ai entendu dire, mais d'après ce que j'ai entendu, que vous aviez évoqué les Éphésiens avec une j'allais dire le don de chacun, la grâce qui nous est donnée.
Tout à fait. Voilà, Mgr Eric de Moulin-Beaufort a évoqué la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, voilà, avec entre autres ce verset, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et donc l'enjeu qui est celui du synode, mais aussi celui de notre diocèse, c'est de se dire, mais au fond, voilà, il y a des personnes qu'on peut repérer clairement comme étant des acteurs. Enfin voilà, il y a des personnes qui ont un ministère, les prêtres, les diacres, il y a des laïcs en mission ecclésiale, voilà, qui ont reçu une mission officielle. Et puis l'idée, c'est de se dire, mais au fond, on a quand même l'habitude, en Église, mais comme dans pas mal d'endroits, de se dire, ah tiens, voilà, il y a un manque, eh ben, il faut chercher quelqu'un pour boucher ce trou. Et donc, le changement de regard, qui est une petite révolution qu'on est invité à faire, c'est de se dire, pas tant, ah tiens, là, il y a un manque, il y a un besoin, qui est-ce qu'on va trouver, mais de se dire, de regarder les personnes qui sont là autour de nous, de se regarder nous-mêmes comme des dons de Dieu. Voilà, voir, être dans la foi que le Seigneur donne des dons, mais on est invité aussi à se voir les uns les autres, frères et sœurs baptisés, comme étant des dons de Dieu, et donc à se regarder comme porteurs d'un don, et donc à partir de là, voilà, non plus chercher à boucher, à remplir des trous, mais à se dire, tiens, un tel est porteur d'un don, comment il pourrait être au service de toute l'Église, de notre communauté paroissiale, de notre mouvement, du diocèse.
Est-ce que vous aviez vécu ce que vous aviez vécu le matin, vous l'avez fait passer comme message aux 200 personnes qui, elles, arrivaient et qui ont entendu quand même cet appel, qui ont travaillé avec vous ensemble, en se disant peut-être que je suis prêt, et pourquoi je pourrais accepter une mission nouvelle ? Dans quelles conditions ? Comment ? Donc il faut quand même une recherche spirituelle, sans rechercher, mais j'allais dire un état d'esprit, un état d'âme qui pousse les gens à faire, et pas comme vous dites à remplir un organigramme ou à remplir des trous.
Tout à fait. Voilà, mais alors c'est un début, c'est donner le goût entre guillemets de regarder un peu autrement pour peut-être que l'Église se vive autrement. De toute manière, enfin voilà, notre évêque avait commencé en rappelant, en disant ben voilà, on est dans une Église où il y a moins de prêtres. Il y a aussi moins de diacres, enfin voilà, moins de ministères consacrés, et on va pas pouvoir continuer en faisant comme si. Donc voilà, mais il s'agit pas de se dire, de se lamenter sur ce qui n'est plus. Il s'agit pas non plus de faire venir, même s'il y a des coopérations avec les diocèses de Ziguinchor et de Feintiette. Mais de se dire, ben voilà, comment chaque baptisé est porteur d'une grâce qui peut mettre au service, voilà, de la communauté.
On vous écouterait pendant des heures, Pierre-Yves, parce que c'est intéressant. Mais c'est le début, parce qu'on comprend bien que c'est le début. Vous vous lancez dans un mandat de 3 ans, enfin, et peut-être même plus, 6 ans. C'est des longues perspectives. Donc là, c'est une amorce qui a été faite. Est-ce que ça a pris ? Est-ce que vous avez senti déjà qu'il y avait une réception nouvelle, une compréhension peut-être un peu des uns des autres qui se sont écoutés ?
En tout cas, j'ai trouvé, moi, dans le groupe où j'étais, dans la salle où j'étais, j'ai trouvé qu'il y avait une réelle écoute, et j'ai trouvé ça très important et très intéressant. Ce qui m'a frappé dans le temps qu'on a eu à proprement parler sur les charismes, sur les dons, c'est que on était invité à regarder, voilà, des dons chez des personnes auxquelles on ne pense pas tout de suite quand on pense à notre communauté paroissiale, par exemple. Ce qui est beaucoup ressorti, c'est les charismes d'accueil et le charisme d'écoute. Et ça m'a frappé, parce que on pourrait se dire que c'est des charismes simples, peut-être, et qui sont... Je crois qu'il faut sans doute... Il y a un vrai talent de l'accueil et d'écoute, mais en même temps, c'est pas forcément quelque chose qui demande des longues formations. Enfin, je me dis, c'est quelque chose qui est que chaque baptisé peut remplir. C'est ça.
À la portée de voilà. beaucoup de personnes.
Et j'étais impressionné de voir comme cela ressortait beaucoup et que ça pouvait être aussi la condition pour reconnaître d'autres charismes. Voilà, le charisme de l'accueil qui permet aussi de voir ce que chacun porte.
Pierre-Yves Gallois, merci d'avoir été avec nous. Le temps passe très vite avec vous.
Merci Jean-Pierre.
Alors, vous savez que, puisque c'est un nouveau départ pour le Conseil diocésain pastoral, il y aura donc c'est un feuilleton, il y aura des suites, la synodalité, ça se poursuit à Rome, on aura des échos, vous allez revenir, vous allez avoir des rencontres nouvelles avec les autres, et ce sera peut-être l'occasion de venir en reparler, ça serait bien.
Eh ben, peut-être bien, puis peut-être avec d'autres personnes, avec
puis avec d'autres personnes, vous viendrez avec des membres du Conseil.
C'est ça.
Vous serez là pour les coacher, et avec vous. Merci en tout cas, Pierre-Yves, avec beaucoup de plaisir, parce que là, finalement, RCF et les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, ils sont contents, ils sont inquiets parfois en voyant moins de prêtres, moins de diacres et tout ça. Donc ils sont heureux de dire, mais peut-être qu'il y a quelque chose à inventer, à vivre, à se laisser, j'allais dire, porter par une nouvelle espérance. Et vous en êtes un peu le symbole et le porteur.
Pierre. Ah bah merci, c'est gentil.
Mais si, c'est des gens comme vous qu'il faut. En tout cas, merci beaucoup, merci d'avoir été
merci
avec
Jean-Pierre.
Nous. Et à bientôt sur RCF.
À bientôt, au revoir.
Au revoir, à bientôt.
En chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins. Corps en toi, la parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce, ils sont chemin. La première en chemin pour suivre au Golgotha le Fils de ton amour que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout au plus près de la croix pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous. Avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin.
Voilà, c'était la première en chemin. Et puis pour terminer, on retrouve une actualité très locale avec les maires, les élus qui nous parlent. C'est tous les midis sur RCF Reims-Ardennes. L'occasion de retrouver en ce samedi François Garcia, il est maire de Gendin. François Garcia, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai, monsieur le maire, on va reparler d'un événement qui s'est passé au cours de l'été, qui est très très important avec la pluie, les orages, etc. On va y revenir. Mais est-ce que vous pouvez nous représenter un petit peu rapidement la commune de Gendin? Combien d'habitants? Où elle est située? Pas tellement pour les Ardennais, mais plutôt pour les Marnais.
Eh bien écoutez, la commune de Gendin est située donc dans les crêtes préardennaises, hein, c'est-à-dire... au centre du département des Ardennes, à mi-distance entre Rethel et Charleville, Mézières. Hein, c'est une commune de un peu plus de 330 habitants, hein, une petite commune ardennaise typique, hein, comme on les connaît dans notre secteur, il n'y a rien de spécial. On est sur les crêtes préardennaises, c'est-à-dire c'est contrefort du massif ardennais, c'est assez boisé, et puis avec des collines.
Alors justement, cette belle commune de Gendin qu'on apprécie et que les Ardennais connaissent mais que les Marnais doivent absolument découvrir, elle a été victime quand même au mois d'août, c'était l'été, d'un grave incident.
En fait, on a connu quelque chose d'assez exceptionnel et tragique, hein, comme malheureusement on voit de plus en plus à la télévision, dans les médias, des événements climatiques majeurs, complètement anormaux, hein, parce que de mémoire d'habitants, on n'avait jamais vu ça. En fait, on a eu deux phénomènes orageux qui sont tombés à 15 jours d'intervalle avec une intensité très forte, qui ont causé deux inondations consécutives qui a nécessité la reconnaissance de catastrophes naturelles.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout d'un coup, il y a eu un orage? Comment ça s'est passé, François Garcia?
Écoutez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a des phénomènes de pluviométrie très importants, puisque là, on a eu 70 litres d'eau au mètre carré sur des temps très courts. Hein, c'est un épisode orageux qui a duré à peu près une heure et demie, où on est sur des bassins versants qui font à peu de choses près 650 hectares, où vous avez 70 litres d'eau au mètre carré qui tombe en très peu de temps. Donc, ça vous fait une vague de 50 ou de 60 cm de haut qui descend, et comme on est au fond du vallon, eh bien, ça descend sur nous directement.
Et alors, quelles ont été à peu près, sans entrer trop dans le détail, il y a eu des habitations qui ont été touchées?
On a eu approximativement une vingtaine d'habitations qui ont été inondées par du ruissellement, hein, des habitations qui, pour la plupart, ne sont jamais inondées. Et tout ça à 15 jours d'intervalle, c'est-à-dire qu'on a eu deux épisodes. Et si vous voulez, ça crée aussi un phénomène de psychose, parce que les gens se disent, mais à juste titre, ça peut revenir demain ou après-demain.
Alors, au niveau des dégâts, ils ont été importants, c'est-à-dire les habitants de Gendin ont été touchés, certains habitants plus que d'autres, dans leur maison, ou c'est resté finalement simplement dans leur voisinage?
Non, l'eau est rentrée dans les maisons. Hein. On a un petit ruisseau qui s'appelle la Robarde, hein, qui est devenu furieux, en gros. Hein. Et tous les ouvrages d'art, comme les ponts au-dessus de la route ou des choses comme ça, on fait obstacle à cette masse d'eau. Et donc, il y a des maisons où ils ont eu 50, 60 cm d'eau. Bon, c'est des eaux d'orage, hein, ça dure pas longtemps. Au bout d'une heure, une heure et demie, l'eau descend, ça s'évacue. C'est pas des inondations type Meuse, parce que là, on a de l'eau qui monte et qui dure. Mais par contre, c'est du ruissellement, donc beaucoup de boue.
Et alors, vous avez, et c'est là qu'il y a du travail, quand on est maire d'une commune comme ça, à faire des démarches administratives pour être classé catastrophe naturelle ou pouvoir faire jouer un certain nombre d'assurances?
Déjà, la première chose, si vous voulez, il faut être avec les habitants, hein, c'est-à-dire on est là pour assister les habitants le jour même au moment où ça se passe. Là, j'ai acheté des pompes vide-cave, on a distribué des pompes vide-cave, on a essayé de rassurer aussi certaines personnes isolées ou des personnes âgées qui étaient chez elles, hein, vérifier également que tout le monde était en sécurité, parce que tout ça génère aussi des risques au niveau électrique, par exemple, donc c'est loin d'être anodin. On a travaillé naturellement avec les sapeurs-pompiers, hein, où il y a eu pas mal d'interventions. On a intervenu aussi avec la préfecture. Donc, c'était la première chose, si vous voulez. Ensuite, l'état de catastrophe naturelle est un statut particulier, puisque les assurances, enfin l'État se substitue aux assurances et à travers un fonds d'intervention. Et les gens qui n'ont pas forcément toutes les garanties au niveau de leur assurance, attendent naturellement la reconnaissance de la catastrophe naturelle avec beaucoup d'importance. Donc ce dossier-là, il a fallu le monter. Il a fallu aussi le monter, l'argumenter, et il a été négocié à Paris à travers une commission interministérielle qui, au bout de 60 jours, hein, c'est le délai légal, fait paraître un arrêté au Journal officiel qui reconnaît les deux épisodes de catastrophe naturelle.
Et ça y est, c'est fait, François Garcia.
C'est fait. Donc à partir de là, les habitants sinistrés ont 30 jours pour déclarer à leur assurance que le village est en catastrophe naturelle, l'épisode de catastrophe naturelle. C'est important dans la mesure où ça impacte également l'avenir des relations avec l'assurance. C'est-à-dire, quand vous êtes en catastrophe naturelle, les assurances ne comptabilisent pas, si vous voulez, le sinistre de la même manière. Vous avez des assurances qui, quelquefois, au bout de plusieurs sinistres, ne couvrent plus. Le terme de catastrophe naturelle, en fait, vous écarte de ce risque-là, au moins pour l'événement.
On peut dire, François Garcia, que heureusement c'est derrière vous, mais enfin c'est aussi une manière d'alerter aussi avec ces phénomènes climatiques les maires, les communes qui peuvent se trouver un jour dans la même situation.
Hein. Je pense que il faut être lucide. C'est pas vraiment derrière nous. Hein. Je pense que malheureusement le réchauffement du climat déséquilibre toutes les météos, il suffit de regarder ce qui se passe sur la planète. Et je pense qu'on va vivre encore, malheureusement, enfin je le souhaite pas, hein, mais on va vivre encore, je pense, des épisodes comme ça. Donc c'est à nous maintenant d'anticiper, en tant qu'élus, d'anticiper et d'aménager toutes les infrastructures du village pour éviter que l'eau n'arrive trop vite. Hein, c'est un phénomène de ruissellement, donc il faut freiner l'eau en amont et puis faciliter l'évacuation de l'eau en aval vers le ruisseau de l'Avance.
Merci à François Garcia d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite à toutes et à tous un très très bon dimanche et on vous retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour ouvrir avec vous une nouvelle page du magazine du week-end. Bon dimanche, bonne semaine.
RCF.
C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Et Léonore attaquait le thème au piano. On trouvait ça tellement beau qu'on en oubliait de jouer pour l'écouter. Elle s'arrêtait brusquement et nous regardait du haut de son tabouret. Elle disait reprenez une femme, une femme. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Souviens-toi qu'un violon fut jeté sur le sol, car c'était toujours le sol qui gênait Nicolas quand il était bémol. Quand les voisins commençaient à manifester, c'était l'heure du goûter. Salut Jean-Sébastien et à jeudi prochain. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Un jour, Éléonore a quitté la maison en portant le diapason. Depuis ce jour, nous n'accordons plus nos violons. L'un après l'autre, nous nous sommes dispersés. La fugue seule est restée. Mais chaque fois que je l'entends, c'est le printemps. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois.
C'était Maxime Le Forestier avec La Petite Fugue sur RCF Reims-Ardennes.
RCF, il est 18h.
Et cette semaine